Regards croisés.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure de la construction européenne qui se poursuit, difficilement mais sûrement, Canal Académie essaie de vous donner les clés pour comprendre les grands enjeux de l'Europe de demain. Arrêtons-nous aujourd'hui, si vous le voulez bien, sur un des domaines d'avenir et pour cause, c'est celui de la recherche. Quelle recherche pour la France et l'Europe de demain? Quelle place le vieux continent peut-il et doit-il occuper dans ce domaine face aux autres grands pays de la planète? Une Europe de la recherche, mais à quel coût et avec quels moyens? Je vous propose d'aborder toutes ces questions avec les deux invités de Regards croisés aujourd'hui, tous deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, Madame Nicole Ledouarin et Monsieur Jean Dercourt. Bonjour Madame, bonjour Monsieur.
Bonjour. Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans les studios de Canal Académie. Alors je peux dire que nous sommes vraiment voisins puisque nos studios, les studios de la première radio académique francophone dans le monde, sont situés au palais de l'Institut de France qui est de Conti dans le 6e arrondissement à Paris et que votre académie, donc les sciences, est justement située au même endroit, étant une des 5 académies qui composent l'Institut. Alors généralement, à la tête de ces nobles compagnies, il y a un seul secrétaire perpétuel, exception pour les sciences. Pourquoi ? Peut-être honneur aux dames. Madame Ledouarin ?
Je pense que c'est une règle qui a été instituée par le passé et qui est parfaitement justifiée par la diversité des sciences. Il y a les sciences qui sont très conceptuelles, comme les mathématiques, et des sciences expérimentales, dites sciences de la matière. Et parmi celles-ci, il y a les sciences de la terre, il y a les sciences de la vie, il y a la chimie. Pour couvrir l'ensemble de ces disciplines qui sont extrêmement variées, il est bon qu'il y ait deux personnes qui aient des compétences complémentaires. Je pense que c'est ce qui a été à l'origine de cette institution.
Alors, c'est
de
un travail perpétuel. Un travail d'équipe, effectivement, travail complémentaire. On se répartit les tâches, Monsieur Dercourt.
Voilà. Moi, je voudrais que l'on se rappelle que cet Institut de France a été créé pendant la période révolutionnaire, issu du siècle des Lumières, qui a sorti le savoir, les sciences, comme étant les moteurs du progrès. Et ceci a beaucoup animé les conventionnels, puis les hommes et les femmes du directoire, et il était évident à lire leurs textes que le poids des sciences dans la formation de la société française et de l'Empire, puisque rapidement il s'est agi de ça, était prioritaire. Et c'était les sciences de l'époque. Elles ont varié. Nous avons parmi nos membres compté un homme qui a donné beaucoup de gages dans la suite, puisqu'il s'appelait le général Bonaparte. Il était venu là en tant que topographe. Il connaissait bien ces questions, mais surtout, il montrait l'intérêt. Et puis, il y a eu la campagne d'Égypte, etc., etc. Donc, tout ça a fait que, au sein de l'Institut de France, il y a eu 5 secrétaires perpétuels, dont 2 dans les disciplines, comme Nicole Ledouarin vient de le dire, en donnant les disciplines d'aujourd'hui. Et puis, il y en a eu 1 pour les sciences, l'autre pour les arts, le troisième était pour l'économie politique, pour les sciences de la réflexion, de la société, mais bien vite, cette académie a sombré, elle a émis des avis très défavorables à l'empereur, et il n'est resté que 4 académies, ce que, bien vite, un autre roi a réparé en 1832. Nous sommes devenus 5 académies et nous y sommes maintenant, et il y a toujours ce nombre de secrétaires perpétuels.
Alors ça, c'est pour l'histoire, mais que représente aujourd'hui l'Académie des sciences? Combien d'académiciens, par exemple, son rôle? Quel est son quotidien, finalement, Madame Ledouarin?
Écoutez, l'Académie des sciences, depuis une période assez récente, a été l'objet de 2 réformes consécutives qui ont changé beaucoup son mode de fonctionnement et surtout sa représentativité vis-à-vis de la communauté scientifique nationale. La première réforme a eu lieu en 1975, à l'époque où M. Giscard d'Estaing était président de la République. Et elle stipulait cette réforme qu'il était important que le nombre des membres soit augmenté. Il était d'une cinquantaine de membres, comme c'est le cas des autres académies.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui, pour les autres académies, il a été porté à ce moment-là à 110 membres. Et ce qu'avait recommandé le président de la République de l'époque, c'est qu'il y ait un rajeunissement des cadres, un rajeunissement des membres, et qu'il y ait aussi une introduction des femmes. Je m'en souviens très bien. C'était tout à fait révolutionnaire à l'époque. Ceci a été suivi quelque temps après par l'élection de la première femme à l'Académie des sciences, qui est une physicienne théoricienne, Madame Choquet-Bruard, extrêmement brillante. Elle est restée seule femme pendant un certain temps. Et ensuite, il y a eu une élection de deux biologistes, Madame Grunberg-Manago et moi-même, la même année, en 1982. Ensuite, d'une physicienne, Madame Buchia. Et après, il y a eu un grand espace de temps où il n'y a pas eu de femmes élues. Quelle est la situation aujourd'hui? Bien, tout d'abord, nous avons eu une seconde réforme qui a encore augmenté le nombre des membres, mais ceci d'une façon vraiment significative, puisque nous sommes passés de 110 ou 120 membres à 250, hein, c'est ça. Et nous avons aussi une nouvelle règle qui est que les personnes que nous recrutons doivent être, pour la moitié d'entre elles, âgées de moins de 55 ans le 1er janvier de l'année où elles sont élues.
Ce qui est une révolution quelque part,
c'est
non,
une pour révolution, des académiciens. C'est une révolution, vraiment, c'est une révolution. Alors, ça a eu pour effet, évidemment, d'introduire des gens beaucoup plus jeunes qui sont au milieu de leur carrière. Et par conséquent, ça change quand même beaucoup l'atmosphère et ça ajoute quand même, il faut bien le reconnaître, un dynamisme certain et puis une actualisation aussi des discussions scientifiques qui sont vraiment au cœur de la science telle qu'elle se fait maintenant. Donc, nous pouvons nous réjouir énormément de cette deuxième réforme. Alors, est-ce que cette deuxième réforme a concouru à la parité homme-femme? Eh bien, d'une manière extrêmement faible pour le moment. Voici quels sont les chiffres. En 2004, il y avait 9 femmes sur 191 membres, ce qui fait 4,7%. Et en 2005, nous avons eu quand même un afflux, on pourrait dire, de femmes. Nous sommes 14 femmes sur 215 membres, ce qui représente 6,5%. Alors, je peux vous donner quelques chiffres qui correspondent à d'autres grandes académies du monde.
À titre de comparaison, à titre comparatif, c'est intéressant, rapidement, oui.
Alors, la National Academy of Sciences des États-Unis, en 2004, avait 171 femmes, mais sur 1877 membres, ce qui fait 9,1%. Par conséquent, nous sommes à peu près à égalité du point de vue de la parité, ou de ce qu'on pourrait considérer comme la non-parité. La Royal Society a 53 femmes sur 1244 membres, ce qui est particulièrement faible comme taux, puisque ça fait 4,3%. Et la Royal Society de Suède, qui est l'Académie des sciences de Suède, a 7,7% de femmes, 27 femmes sur 352 membres.
Donc la non-parité n'est pas un cas uniquement français, on l'aura
non,
bien compris à travers ces chiffres.
Nous sommes en train de progresser.
Jean Dercourt, justement, l'Académie des sciences va encore accueillir de nouveaux membres prochainement. Ce sera le 14 juin, précisément sous la coupole. La consécration pour combien d'impétrants cette fois-ci?
Ce sera pour 24 et nous finirons ainsi 4 années au terme desquelles nous avons recruté 100 membres nouveaux. Et ces 100 membres nouveaux, comme Mme Ledouarin vient de le dire, étaient recrutés pour moitié d'entre eux avant 55 ans. Et pour l'autre moitié, achèvera de pouvoir être participant au recrutement des autres à 75 ans. Ces deux dates limites ont tout à fait modifié l'allure de l'Académie. Avec cette promotion, celle qui va suivre l'année prochaine, nous aurons atteint le chiffre de 100 nouveaux membres. Et cela a une importance, mais des risques. Tout n'est pas toujours splendide. L'important, c'est tout le rajeunissement des thèmes. C'est de pouvoir compter sur eux dans les grandes périodes et sur des grands problèmes. On parlera de la recherche tout à l'heure. Ils y ont joué, dans ces discussions sur la recherche, un rôle majeur. Il y a une autre difficulté qui est grande. Assister à nos réunions pour les plus jeunes d'entre eux, tous ne sont pas parisiens, bien au contraire, et souvent une œuvre difficile. Or, dans le mot académie, il y a le mot se bien connaître, travailler ensemble.
La convivialité aussi.
Il y a la convivialité. Et là, je dois dire que nous n'avons pas encore gagné. Nous allons améliorer les modes de vie pour y atteindre. Mais à toute chose, il y a son pendant et sa difficulté. Simplement, ce qui est évident, c'est que maintenant, l'Académie des sciences est parfaitement représentative dans la thématique de la science qui se fait en France, en Europe et dans le monde, et que les dispositions soient prises, avec ce départ à 75 ans pour le processus électoral, qu'il en sera ainsi pour quelques années, et puis dans 20 ans, 50 ans, et bien d'autres que nous ferons modifier les statuts que M. Hubert Curien a signés lorsqu'il était en charge de cette académie il y a peu de temps.
Quelles disciplines sont représentées dans ces 24 nouveaux arrivants ?
Nous avons une répartition égale entre les mathématiques, la physique, la mécanique et l'informatique, les sciences de l'univers, la chimie, la biologie intégrative, la biochimie moléculaire et la génétique qui lui sont associées aussi, la biologie humaine et les sciences médicales. Et il y a une répartition égale entre ces unités. Elles ont été longuement discutées. Fallait-il en changer le nombre par rapport au système précédent? Il est apparu que d'avoir trois sections de biologie, dont plus la chimie qui lui est souvent proche, sur 8 sections, était un pourcentage qui représente en gros la représentation très forte des sciences de la vie dans la recherche mondiale. Et nous étions à l'aune de différentes disciplines. Ce n'est pas là qu'est notre difficulté. Elle est que il y a des disciplines comme les mathématiques où la place de la science en France est tout à fait prédominante et d'autres où dans le monde variée, la recherche française n'a pas de sens en tant que recherche française puisque beaucoup de Français œuvrent hors de nos frontières, sont en France comme résidents, comme professeurs ou chercheurs, mais sont en collaboration avec tous les pays du monde. Et ça, c'est une des points que l'on verra. Dire « la science en France, j'achète », dire « la science française, ce n'a plus de sens ».
Eh bien voilà une bonne conclusion pour la première partie de cette émission. Madame Le Douarin va s'exprimer également sur ce point dans un instant. Nous marquons une très courte pause sur Canal Académie. Canal Académie qui reçoit aujourd'hui pour parler de l'Académie des sciences et de la recherche en Europe, vous l'avez compris, Madame Nicole Le Douarin et Monsieur Jean Dercourt, tous deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission Regard croisé qui reçoit, je vous le rappelle, Madame Nicole Le Douarin et Monsieur Jean Dercourt, tous deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Nous parlons de cette académie, la place de l'Académie des sciences 6, Quai-Conti à Paris, au palais de l'Institut de France précisément, et puis de la place de la recherche. Alors par définition, les choses changent très vite en matière de sciences. De nouvelles disciplines apparaissent grâce à la recherche, il y a sans cesse de nouvelles découvertes. Le nombre d'académiciens ne peut qu'aller croissant. C'est un petit peu ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Madame Le Douarin.
Oui, parce que notre souci est que l'académie représente vraiment la science en marche, la science qui se fait. Et que, ainsi, elle puisse être utile dans la définition des perspectives de ce qui va se passer, de ce qu'il est important de développer. Nous considérons que notre rôle est un rôle d'expertise, mais c'est aussi un rôle de conseil pour le gouvernement, pour l'exécutif, où mettre les efforts de la société, dans quelle partie du savoir scientifique faut-il, sur quelle partie faut-il miser, particulièrement pour l'avenir, et pas seulement pour l'avenir de l'acquisition de connaissances, mais aussi pour les applications qui résultent des connaissances scientifiques. Parce que justement, M. Dercourt vous a indiqué quelles étaient les différentes sections que nous avons définies de façon à regrouper le mieux possible les différentes recherches qui se font dans le pays. Mais nous avons aussi une intersection qui recouvre un petit peu l'ensemble des sections et qui est appelée intersection des applications de la science. Et ceci nous permet de faire un lien direct entre des recherches fondamentales et leurs applications immédiates et leurs applications futures et passées.
C'est toute la jeunesse de l'Académie des sciences et aussi son actualité, une académie au cœur de l'actualité de la recherche. Alors nous allons parler de la réforme possible encore plus en avant pour l'Académie des sciences. Peut-être auparavant, élargissons notre photo. Quel est le rayonnement, Madame Le Doirin, de l'Académie des sciences aujourd'hui en Europe et dans le monde?
De l'Académie des sciences française?
Oui.
Ben, tout d'abord, l'Académie des sciences bénéficie d'un grand prestige. J'en suis convaincue et j'en ai des preuves, nous en avons des preuves fréquentes. Un prestige dans le pays, dans notre pays, mais aussi un prestige à l'extérieur. Il y a eu des très grands scientifiques, le nom de très grands savants est attaché à l'histoire de l'Académie et nous avons eu à cœur, justement, en faisant ces réformes, que les grands savants actuels en fassent partie. Ce qui n'aurait pas été bon pour l'Académie et ce qui lui aurait enlevé sa justification est que des gens de très grands talents n'en fassent pas partie. Et des gens qui ont eu des très grandes réalisations. En somme, il faut que tous ceux qui sont bons y soient, même si, bien sûr, rien n'étant parfait, tous ceux qui y sont ne sont pas nécessairement des très grands savants.
Et tout toujours, est représenté, tout le monde est représenté.
Mais au moins que tous les grands et tous les très bons y soient. Alors ça, c'est ce que nous avons cherché. C'est ce que cherchent aussi les autres académies des très grands pays, vous savez. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons énormément d'échanges. Nous avons une délégation particulière avec un directeur délégué plutôt qui s'occupe des relations de l'Académie des sciences avec le monde extérieur et en particulier avec les autres académies du monde.
Il y a des travaux en commun, vous menez des
travaux. Alors il y a des travaux en commun, nous faisons des colloques en commun avec l'Académie des académies par exemple de médecine anglaise, la Royal Society. Nous recevons très fréquemment plusieurs fois par an des délégations proviennent du sommet des autres académies. Nous avons reçu le bureau de la Royal Society cette année. Nous avons beaucoup d'activités internationales et monsieur Jean Dercourt qui est très intéressé par cela va vous les décrire.
Jean Dercourt, effectivement, ces passerelles avec l'international sont très importantes pour faire avancer la recherche aujourd'hui.
Oui, d'autant plus que l'Académie a une charge administrative scientifique par l'État. L'Académie représente la France dans l'Union des sciences internationales qui, aux côtés de l'UNESCO, présente l'état de la recherche en France participe au très grand programme. Et cette position de représentant officiel est intéressante pour l'Académie et pour la science française. Parce que toutes les unions scientifiques thématiques, l'union de mathématiques, d'astronomie, de chimie, de sciences de l'univers, a donc un comité français. Et donc nous arrivons à faire passer les souhaits de notre communauté au niveau international par ce biais. Et puis il y a même, dans cette même structure étatique, il y a des instances de programmation internationale, programmation du spatial, programmation des sciences de la Terre, programmation des sciences de la mer, tout objet qui ne peut être qu'international. Et là, avec les agences françaises qui en ont la responsabilité, l'Académie réunit arrive à rédiger ses programmes. Ça, c'est la partie purement par délégation de pouvoir de l'État. Nous recevons d'ailleurs les subventions qu'il faut pour essayer de traiter et de comparer ce problème. Mais il y a d'autres réunions qui se marquent beaucoup par nos publications. Mais il est très important de voir que, encore une fois, la science avec des frontières c'est un petit peu une vue de l'esprit. Rien de grand dans les opérations d'investissement que sera ITER. Nous n'en savons rien, mais c'est un élément extrêmement précieux pour lequel les unions dont je parle ont pris des positions.
ITER, c'est le futur réacteur nucléaire nouvelle génération.
Voilà. Voilà.
Alors justement, là on arrive au cœur du problème. Est-ce que l'on peut parler aujourd'hui, là je vous pose la question à tous les deux, d'une Europe de la recherche? Est-ce qu'elle existe fondamentalement? Et si oui, à quoi ressemble-t-elle? Madame Le Doirin.
C'est-à-dire que l'Europe de la recherche, c'est un objectif qu'il faudrait absolument arriver à atteindre.
On ne l'a pas encore atteint, aujourd'hui.
Pas vraiment, non. Il y a des collaborations entre les différents pays. Il y a évidemment des programmes européens de recherche qui ont financé un certain nombre de recherches dans des pays qui ont travaillé en collaboration, où il y a eu des réseaux de chercheurs qui ont travaillé en collaboration les uns avec les autres. C'était un très bon début. Ça n'a pas donné entière satisfaction. C'était surtout orienté vers des travaux appliqués plus que vers de la recherche fondamentale. Il faut quand même insister, et ça c'est notre rôle à nous académiciens, de faire comprendre au public et à tout le monde qu'il n'y a pas de recherche appliquée sans recherche fondamentale. Il faut d'abord découvrir les phénomènes, découvrir les mécanismes avant de pouvoir les appliquer et avant de pouvoir profiter des connaissances qu'on a acquises sur ces phénomènes. Par conséquent, la recherche fondamentale est essentielle. Donc, ce que nous souhaitons, nous, maintenant, et les chercheurs en général souhaitent qu'il y ait une véritable Europe de la recherche et qu'il y ait des fonds qui soient dédiés particulièrement à la recherche fondamentale, à la recherche des processus fondamentaux qui permettront une meilleure reconnaissance de la nature et une meilleure connaissance des grands principes physiques, chimiques et biologiques, de façon à ce que des applications importantes pour l'espèce humaine et pour l'environnement et pour la planète puissent en être dérivées.
Si je vous suis bien, l'Europe, les pays qui la composent, n'accordent pas, n'allouent pas encore assez de moyens à la recherche en Europe.
C'est surtout une question d'organisation. Il y a le problème des moyens, mais il y a aussi un problème d'intention. Il y a un problème de programmation. Il faut
Et de volonté politique
voilà,
aussi.
Voilà, de volonté politique. Il faut absolument, d'après nous, et ça, j'espère que ça va pouvoir se développer, il faut qu'il y ait une véritable Europe de la recherche. On ne peut pas dire qu'elle soit, pour le moment, extrêmement efficace. Par rapport, par exemple, à la puissance de recherche d'États comme les États-Unis, nous ne sommes quand même que nous sommes très morcelés et nous pourrions faire beaucoup mieux si nous pouvions faire des efforts en commun, concertés en commun. Il y a quand même beaucoup d'une civilisation, la civilisation européenne, qui a une tradition extraordinaire dans le domaine de travaux de l'esprit et par conséquent nous devrions pouvoir aller beaucoup plus loin que nous allons.
Alors, besoin de plus de moyens financiers, besoin de volonté politique, de plus de considération peut-être aussi à l'égard des chercheurs, non, monsieur Dercourt, pour éviter cette fameuse fuite des cerveaux.
Oui, mais si vous voulez, votre question était à deux temps, n'est-ce pas? Et vous en rajoutez un troisième. Le premier temps, c'est l'Europe. Il s'est fait de l'Europe indépendamment des structures de l'Union européenne. Et elles ont très bien marché. Le Centre d'études de recherche nucléaire, situé à Genève, est un organisme inter-État. Il n'est pas avec l'Union européenne. En revanche, la Commission européenne, d'abord, et depuis quelques années, a construit un embryon d'Europe de la recherche, en ayant des programmes qui étaient difficiles à obtenir, qui étaient administratifs, pour être juste, et ainsi se sont mis à travailler de façon régulière pour un certain nombre d'années, 4 à 8 s'il y avait renouvellement, sur des programmes. Des amitiés se sont faites, les thèses se sont soutenues dans un pays et dans l'autre, un programme très fort de mobilité des jeunes chercheurs. Rappelez-vous des films qui se passaient à Barcelone, n'est-ce pas, où on voyait tout à fait cette solidité arrivée. Ceci a été un très grand succès. Un très grand succès avec des moyens très modestes qui étaient alloués, mais il y avait une volonté politique très forte. Puis est venue, il y a quelques années, des réunions des politiques au nom de l'Union européenne et qui se sont tenues à Lisbonne. Et là, des objectifs qui se révèlent vraiment très lointains ont été faits, de faire de l'Europe un compétiteur des États-Unis. Et pour cela, nous en sommes extraordinairement loin. Et l'Union européenne, la solidité de ce qui s'est construit, à la date où nous nous réunissons aujourd'hui, nous avons la crainte que ce mouvement s'atténue, s'affaiblisse, s'affadisse. Il était nécessaire que l'Europe puisse être le mouvement associant pour constituer. Le restera-t-elle ? Aura-t-elle la confiance ? Le pourcentage de crédit alloué par les États restera-t-il 1% ou grandira-t-il pour que l'objectif de Lisbonne de faire de l'Europe un partenaire grandissant par la recherche et l'innovation, ça nous ne le savons pas.
C'est un cri d'alarme que vous lancez.
C'est un cri d'alarme, c'est l'inquiétude au milieu du guet. Est-ce que nous n'avons pas récemment décidé de quitter un bateau qui allait trop vite ? Et pour les chercheurs, pour la recherche, c'est en effet ou de la recherche internationale, une troisième fois je vous le redis, ou de la recherche européenne, sinon là où les choses vont le mieux, iront les chercheurs les meilleurs. Et ils iront les meilleurs parce que le marché de l'emploi y sera développé et parce que les moyens leur seront offerts. La recherche européenne naît, elle croît, va-t-elle le faire encore ? Des innovations sont risquées. Un conseil européen de la recherche est en gésine. Est-ce qu'il aura lieu ? Est-ce que ce seront bien des programmes associant les différents pays d'Europe pour améliorer la perception d'une Europe scientifique ou seront simplement des suppléments de crédit donnés à tel pays ou à tel autre et revenir à, vous vous souvenez, My Money Back? Et est-ce que la science, qui était partie pour être beaucoup plus large, vivra avec cette idée « My money back » pour chaque nation. Ce serait une catastrophe et un éteignoir sur la recherche scientifique européenne.
Merci infiniment à tous deux pour vos témoignages très précieux sur cette Académie des sciences, sa place dans le monde, sa place dans la recherche en Europe. Nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr. Nous aurons le plaisir, l'honneur d'accueillir les nouveaux arrivants, donc à l'Académie, les prochains académiciens jeunes pour assurer l'avenir de cette Académie. Nous aurons l'occasion de les accueillir sur Canal Académie pour parler de leurs travaux, de leur carrière, de leurs ambitions. Évidemment, il y a beaucoup à dire. Merci infiniment Madame Nicole Ledouarin, merci Monsieur Jean Dercourt, tous deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Je vous dis à très bientôt.
Et grand merci.